Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Depuis quand les humains sont-ils réduits en esclavage? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Paulin Ismar. Aujourd'hui, deuxième épisode, la Grèce antique.
Vous, les Grecs, c'est votre victoire. Voici votre butin.
Or, argent, épices,
bijoux, esclaves, femmes, c'est à vous! Et toute la population sera vendue comme esclave.
À mon roi! Alexandre de Macédoine.
Alexandre ! Alexandre !
Qu'en est-il de la Grèce antique ? Les esclaves sont partout dans la poésie d'Homère. Même les maîtres et les princesses savent que les hasards de la guerre et des naufrages en mer peuvent les amener à devenir eux-mêmes esclaves. Les Troyennes savent que si leur ville est prise, elles seront contraintes aux travaux serviles, le tissage et la corvée de l'eau. Dans l'Iliade, Briseis, une captive grecque enlevée par Achille, devient l'esclave d'un Achéen. Pour Agamemnon, elle est la plus belle part du butin, destinée à la couche du vainqueur. Tandis que dans l'Odyssée, Eumée, le porcher d'Ulysse, qui vit depuis toujours chez son maître, redoute, lui, d'être vendu au loin et de redevenir un esclave marchandise. Eumée, lui-même, déclare « Zeus prend la moitié de sa valeur à l'homme dès le jour où on le livre à l'esclavage ». Même dans la vraie vie, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, appelés les siècles d'or de la démocratie athénienne, les esclaves représenteraient entre 20 à 40% de la population. Tous les citoyens, sauf les plus pauvres, possèdent au moins un esclave. Curieusement, il ne vient pas à l'esprit des philosophes athéniens de mettre en cause l'esclavage, qui est considéré comme normal, sinon naturel.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Au XIXe siècle, à l'époque de la guerre de Sécession, les sudistes américains justifiaient l'esclavage en rappelant que la brillante civilisation grecque, dont les Occidentaux se targuent souvent d'être les héritiers, était une société fondée sur l'esclavage. Et donc, si l'esclavage, certes, est un grand malheur, c'est un mal nécessaire à toute civilisation digne de ce nom. Ce raisonnement peut en entraîner un autre. La démocratie qui a fait la fierté d'Athènes n'aurait pu exister sans l'esclavage. Un historien britannique, Moses Finlay, spécialiste de la Grèce antique, mort en 1986, affirmait, je cite, que la liberté et l'esclavage avaient avancé main dans la main. Idée déprimante, la démocratie et l'esclavage seraient donc indissociables. Pourtant, l'esclavage grec n'est pas né à Athènes, mais sur une île de la mer Égée qui jouxte l'Asie mineure, Chios. Cette île grande et très belle, paraît-il, réputée pour ses vignes, qui, vous vous en souvenez peut-être, avait inspiré un poème à Victor Hugo quand elle avait été ravagée par la guerre gréco-turque. Chios, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil, Chios qu'ombrageaient les charmilles. Mais bien longtemps avant, entre le 5e et le 1er siècle avant notre ère, de nombreux auteurs grecs évoquent la prospérité exceptionnelle de Chios et le nombre impressionnant de ses esclaves.
J'offre 1500. 1500.
J'offre 2500.
2500.
Tu achètes pour ton propre compte?
Non.
Vendu pour 2500.
Paulin Ismar, qu'est-ce que l'esclavage dans la Grèce antique a de nouveau, de particulier?
Des esclaves marchandises ont existé en Méditerranée. On en voit, comme vous le dites, dans les poèmes homériques. Hein. Vous mentionniez Briseis, captive, qui est destinée à l'esclavage, ou Eumée, le divin porcher d'Ulysse. Mais il se passe quelque chose, disons, entre la fin du 7e et la fin du 6e siècle avant notre ère, dans la Méditerranée orientale, c'est le développement, enfin, de nombreuses sociétés du monde grec deviennent de véritables sociétés esclavagistes.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, oui?
En fait, l'idée, c'est ce terme qu'a avancé pour la première fois l'historien Moses Finlay, consiste à différencier les sociétés qui ont pratiqué l'esclavage au fil de l'histoire. L'idée de Finlay, c'était de dire que seules certaines sociétés peuvent véritablement être qualifiées d'esclavagistes. C'est des sociétés dont la base productive repose en grande partie sur le travail des esclaves, et c'est des sociétés qui ne peuvent, d'une façon, se reproduire d'une génération à l'autre sans recourir à l'institution de l'esclavage. Et donc même le fait esclavagiste devient un fait, disons, qui imprègne toutes les dimensions de la vie sociale. Alors, par exemple, dans le monde grec, ça veut dire que, en réalité, le grand partage qui traverse toutes ces sociétés, à partir de la fin du 7e, début du 6e siècle, c'est le partage entre les libres, d'un côté, et les esclaves. Voilà, c'est des sociétés qui sont organisées autour de ce grand partage entre libres et esclaves. Et plusieurs de ces sociétés civiques du monde grec contiennent un nombre considérable d'esclaves qui sont essentiels à l'organisation matérielle de ces sociétés.
Alors j'ai découvert en vous lisant qu'à Chios, justement, cette île de la mer Égée, les esclaves étaient exceptionnellement nombreux et donc les maîtres avaient une peur terrible des révoltes. D'ailleurs, les ennemis de Chios appelaient les esclaves de Chios à la révolte ou à la désertion, donc à se soulever contre leurs maîtres. C'était vraiment une société très violente.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a toute une tradition littéraire antique qui évoque la violence des maîtres de l'île de Chios à l'égard de leurs propres esclaves. Mais les textes anciens nous disent aussi que les Chiotes auraient été les premiers parmi les Grecs à acheter des hommes barbares, non grecs, avec de l'argent. Et c'est vraiment une notion importante. Des hommes donc qui sont réduits à l'état de marchandises et qu'on achète avec de l'argent pour les faire venir sur l'île de Chios, où sans doute ils travaillaient, donc il faut imaginer des dizaines de milliers d'hommes qui travaillaient dans la viticulture chiote, sachant que Chios produisait un vin très célèbre dans l'Antiquité qui était exporté un peu partout en Méditerranée.
Et à Athènes, donc, au 5e et 4e siècle, ce sont les siècles d'or de la démocratie, les esclaves, à ce moment-là, représentent entre 20 et 40% de la société. Est-ce que c'est une société esclavagiste aussi, Athènes ? La
Bien
démocratie
sûr.
Athénienne.
Athènes, c'est une très grande société esclavagiste. Et comme Chios, on voit cette société esclavagiste, disons, se développer à partir, en gros, de la fin du 7e, début du 6e siècle, avant notre ère. C'est-à-dire qu'il y a quand même un processus, on peut dire, de démocratisation progressive de la société athénienne qui est concomitant avec le développement de l'esclavage dans des proportions tout à fait exceptionnelles. Il faut penser qu'il y a un lien étroit entre le développement de la démocratie et le développement de l'esclavage. C'est-à-dire pour que le citoyen naisse et s'affirme comme une figure majeure au centre du fonctionnement de ces sociétés, il faut qu'il y ait comme ce double, cet autre absolu qu'est l'esclave. Et c'est quelque chose qu'on voit très très bien se développer à Athènes dans le courant du 6e, au début du 5e siècle avant notre ère.
Et comment les philosophes grecs parlent-ils de l'esclavage ?
En réalité, ils en parlent assez peu. C'est-à-dire que l'esclavage est une réalité omniprésente de leur monde. C'est quelque chose qui, d'une certaine façon, va de soi, puisque le seul motif qui, d'un point de vue théorique et normatif, justifie qu'un individu soit réduit en esclavage et soumis à un autre, c'est théoriquement la captivité de guerre. Même si, un très grand nombre d'esclaves sont achetés sur les marchés, mais il y a l'idée qu'au départ, ce qui justifie qu'ils soient réduits en esclavage, c'est qu'ils ont été vaincus à la guerre. Donc, les philosophes peuvent parler ici ou là dans leur œuvre des esclaves, de l'esclavage, mais sans jamais remettre en cause ou véritablement discuter l'existence même ou la légitimité de cette institution fondamentale qu'est l'esclavage.
Donc, il n'y a pas de pensée abolitionniste dans la Grèce antique.
Il n'y a aucune pensée abolitionniste dans la Grèce antique. Il y a une réflexion chez certains philosophes au IVe siècle sur le statut plus ou moins conventionnel ou naturel de l'institution de l'esclavage. Et c'est à cette occasion qu'on a ce texte d'Aristote qui, pour nous, a quelque chose de monstrueux, dans lequel Aristote justifie l'existence d'esclavage dit par nature, comme si des individus par nature étaient particulièrement destinés à l'esclavage. Et on sait qu'Aristote, à ce moment-là, répond à certains philosophes dont les textes, pour nous, sont perdus. Mais on ne peut absolument pas considérer qu'il y ait une pensée abolitionniste chez les penseurs de la Grèce antique.
Merci beaucoup, Paulin Ismar. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'esclavage à Rome et dans l'Empire romain.